Je salue chacun ce matin. C'est vrai que c'est un jour particulier, ce qui fait d'ailleurs que certains habitués sont pas là, sans doute en famille, mais des visiteurs sont là. Soyez les bienvenus. Soyez vraiment les bienvenus. Nous nous réjouissons. Je me dis, c'est merveilleux, l'Église de Jésus-Christ. Il y a des témoignages du Jésus-Christ vivant en tout lieu, en tout lieu géographique de notre pays, même si ce n'est pas autant qu'on le souhaiterait, autant de lieux auxquels on aspirerait. Et ce matin, d'ailleurs, je voudrais prier un instant pour cela, recommander Pascal, qui est le responsable d'une assemblée naissante à Plouermel, qui traverse des moments extrêmement difficiles, plus qu'une anémie sévère. Il était pendant 3 jours, son diagnostic vital était engagé. Il semble qu'il y ait une légère amélioration. Donc on va prier pour lui en même temps que je prierai pour ce temps de prédication. Mais c'est vrai que on peut se retrouver entre chrétiens ou personnes tout simplement qui cherchent parce que c'est ainsi, Dieu nous a fait ainsi, que dès qu'on est et dès qu'on grandit, dès que la conscience arrive, il y a dans le cœur de l'homme une soif que seule la révélation de Jésus-Christ pourra satisfaire. C'est ainsi. Des fois, ça prend du temps. Pour certains, c'est dans le plus jeune âge, et ça, c'est une bénédiction. Pour d'autres, eh bien, c'est plus tard, mais c'est toujours une bénédiction. Amen. Ces dernières semaines, deux interpellations m'ont marqué. Ma petite fille, elle s'appelle Lily, elle a 6 ans, déjà au moment de Noël, et puis ces derniers temps, alors qu'on leur rendait visite à Morlaix, est très intriguée. Elle doit voir des films, des choses, j'en sais rien, des ouvrages où elle a dû voir Jésus, une figure de Jésus, avec des épines et du sang qui coulaient. Et alors elle pose la question à sa maman, qui n'est pas convertie, et dit, mais comment Jésus est mort ? Alors, ça c'est une chose, les enfants, c'est quand même un sujet de scandale. Un homme, elle a compris qu'il n'avait rien fait de mal, etc. Mais comment il est mort ? Il y a ce sang qui coule, etc. Alors, vous savez, Dieu fait comme il veut. Sa maman n'est pas convertie. Elle s'est même parfois violemment opposée à ce que j'avais été amené à vivre le premier dans la famille, etc. C'est une interpellation. Jésus-Christ crucifié, finalement. Est-ce bien vrai, tout cela ? Et ça servira à quoi ? Et comment ça s'est passé ? Et dans les mêmes temps, alors qu'avec un frère, nous distribuons des courriers pour annoncer l'Évangile, nous arrivons chez un couple et on échange une femme qui, on va dire, craignant Dieu et qui pratique la foi catholique romaine. Et alors, elle est interpellée, elle dit « Ah oui, bientôt c'est Pâques, il va ressusciter. » On va célébrer. Elle a eu une formule. Ben oui, on va encore le dire. Il va encore ressusciter, quoi. Et alors je lui dis, mais madame, s'il est ressuscité, il est vivant. Vous êtes bien d'accord? S'il est ressuscité, il est vivant. Il ne va pas ressusciter tous les 8 jours. Il est ressuscité, il est vivant. Et c'était... Il y avait à la fois une incrédulité, elle était sincère. On va fêter la résurrection, on va faire l'anniversaire de la résurrection. Mais s'il est ressuscité, figurez-vous, frères et sœurs, c'est qu'il est vivant. Alors, est-il crucifié ? Les protestants, avec la réforme, je crois, on dit c'est pas possible, Jésus-Christ n'est plus crucifié, il est vivant, ils l'ont enlevé de la croix, enfin des représentations de la croix. Nous avons gardé la croix. Faut-il garder la croix ? J'en sais rien. Les deux sont vrais. Lui-même le dit dans l'Apocalypse, je suis le premier, le dernier, et le vivant, le vivant. J'étais mort, j'étais imparfait. Oui, j'ai été mort. Et voici, je suis vivant, et je suis vivant cette fois-ci, non pas pour 30 ans, pour 40 ans, mais au siècle des siècles. Plus que cela, je tiens maintenant la clé de la mort et du séjour des morts. Oui, je crois qu'on est Et on ne va pas s'en priver ce matin de revenir sur cet article fondamental de notre foi. Si Christ n'est pas ressuscité, si donc il n'est pas vivant, notre foi, frères et sœurs, mes amis, n'écoutez plus. Si Christ n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien. Bien plus que ça, nous sommes plus malheureux que tous les hommes. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, alors la vie n'a pas de sens. Alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Si Christ n'est pas ressuscité. Et ce matin, nous allons prendre le temps. Il y a, à travers les prières, il y a des prières qui sont comme des cris, il y a des prières qui disent, ben oui, il y a peut-être l'incrédulité. Vous savez, le meilleur remède à l'incrédulité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si je vais vous la prêcher ce matin, mais en tout cas, je vais vous la lire. Parce que c'est elle seule qui a la puissance, bien sûr, par l'application, lorsqu'elle est appliquée par le Saint-Esprit à nos cœurs, pour séparer ce qui est de l'âme, ce qui est des émotions, ce qui est des sentiments, et Dieu n'est pas contre, mais ce qui est de l'Esprit. Et il y a une attestation de l'Esprit, et c'est la parole qui tranche, qui vient trancher, on a besoin encore que ce soit fait dans nos cœurs. Alors ce matin, je vais prier un instant pour remettre ces temps au Seigneur, ces temps de lecture de la parole. Nous lirons, nous aurons une lecture un peu abondante, je supprimerai, puisque Jean-François, dans ce qu'il nous a apporté déjà, a souligné des points essentiels. Mais je puiserai les lectures parce que la parole nous y invite, à la fois dans la loi, c'est-à-dire dans les Écritures, qu'on appelle communément l'Ancien Testament, dans la lecture des prophètes qui ont annoncé cet événement merveilleux, glorieux, terrible, cette solution à la tragédie de la chute de l'homme et du péché. Jésus-Christ mort à la croix. Donc nous lirons aussi les prophètes qui ont annoncé cela. Nous lirons les psaumes et nous lirons les évangiles. Et puis, bien sûr, ce que la révélation qui en a été donnée aux apôtres, car notre foi, frères et sœurs, repose sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ, le ressuscité, le vivant, le crucifié, l'agneau immolé, l'agneau sur le trône, étant la pierre angulaire. Je ne vois pas pourquoi je m'écarterai de ces choses ce matin. Seigneur, je te remets ces moments que nous vivons. Je te prie, Père, puisque tu as pris soin, Seigneur, de paraître à plus de 500 personnes à la fois, et pendant 40 jours, Seigneur, tu as pris soin de nous laisser les Écritures pour qu'elles parviennent jusqu'à nous sans falsification, Seigneur. Je te remets, Seigneur, ta parole. Que, Seigneur, ton Saint-Esprit puisse l'appliquer à nos cœurs d'une manière pertinente. Que, Seigneur, effectivement, l'incrédulité soit tranchée, chassée, Seigneur, ce matin. Que rien ne puisse s'opposer à ce que ce dont les cœurs ont besoin, de cette parole de vie, de cette parole de résurrection, de vie et de résurrection, de cette parole abondante, de cette source vive, que rien n'empêche qu'elle puisse être déposée dans les cœurs, opérer les libérations, les guérisons, les restaurations nécessaires dans la vie des hommes et des femmes, Seigneur, abîmés par le péché. Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je te remets ces temps. Seigneur, je te remets aussi notre frère Pascal, qui lutte, Seigneur. Et Seigneur, je te remets la communauté qu'il a en charge, Seigneur, et nous nous joignons à cette prière, à cette supplication. Toi qui es le Seigneur, le Dieu de la résurrection, toi qui es le Seigneur de la vie, je te prie, Seigneur, de rendre ce serviteur, Seigneur, à son service. Sois béni et sois loué, Père. Amen. Amen. Je vous invite à lire, nous allons en lire dans l'Exode qui a été cité tout à l'heure par Jean-François. Nous allons lire dans Exode 6, je sauterai quelques chapitres. Non pas que la lecture de ces chapitres gênerait ce que je voudrais vous prêcher ce matin, mais notre temps est limité. Alors Exode 6, verset 5, je commencerai là. Exode 6, verset 5, « J'ai entendu, dit l'Éternel, les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. » Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. En Exode 12, après, comme ça a été rappelé tout à l'heure, que l'Éternel a envoyé déjà des jugements sur l'Égypte pour faire lâcher prise à Pharaon. Pharaon, c'est une image aussi de l'ennemi de nos âmes qui veut nous détruire, nous tuer, nous égorger, nous étouffer. Eh bien, après cela, avec la résistance de Pharaon, Dieu confirme qu'il va libérer son peuple. Et il va expliquer ici comment il le fera. Dans Exode 12, verset 1er, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. » Le salut a une dimension personnelle, individuelle, mais aussi une dimension collective. Nous appartenons, si nous sommes sauvés, au corps de Christ. Nous ne sommes pas chrétiens, nous ne sommes pas sauvés seuls. Vous le garderez. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevron, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai, retenez cette expression qui nous a été donnée ce matin, je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Il y a bien jugement. Mais ceux qui sont placés sous le sang échappent au jugement, alors qu'ils le méritaient également. Et puis, il y a, je voulais aller un peu plus loin, le sang, au verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Je voudrais encore lire. Ça, c'est vraiment ce qui s'est passé en Égypte. Nous avons là déjà une image du salut du peuple de Dieu en Égypte et une annonce aussi de cet agneau immolé qui est Christ. Je voudrais encore lire dans Ésaïe 53, pardon. Nous n'irons pas tout Ésaïe 53, ça le mériterait, mais je vais lire que le verset 10. Non, on va lire tout Ésaïe 53. Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a porté, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et il l'était. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, Gethsémané notamment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple ? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Je relis ce verset, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, il se chargera de leurs iniquités. Il se chargera de nos iniquités, de tout ce qui est tordu en nous, de tout ce qui a été déformé en nous par le péché commis, par le péché hérité de nos pères, par le péché de génération en génération. Il se chargera de nos iniquités et les changera. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Vous avez remarqué que Jésus a été crucifié entre deux malfaiteurs. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Cela nous souligne combien c'est librement que lui, l'innocent, le saint, le juste, comme nous dit la lettre aux Hébreux, le parfait, le sans tache, celui qui n'a pas besoin de se purifier, le grand sacrificateur qui n'a pas besoin d'être purifié, offrir des sacrifices pour lui-même avant d'en offrir pour d'autres, il a été compté parmi les malfaiteurs. Pour bien montrer que c'est bien ces péchés, des malfaiteurs, du repentant et du non-repentant. Il a plu à Dieu de faire tomber sur son Fils bien-aimé le jugement que méritait notre péché. Car notre péché mérite un jugement, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Je voudrais encore lire, après avoir vu le texte prophétique qui nous annonce, l'accomplissement de ce texte, dans Matthieu 27, à partir du verset 39. Vous allez voir la proximité de ces textes, ce texte d'Ésaïe et ce qui s'est réellement passé. Matthieu 27, verset 39. Jésus est crucifié. Il n'est pas mort, mais il est crucifié. Matthieu 27, verset 39, jusqu'à 54, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. » Parole que Jésus avait prononcée s'agissant de son camp, de son corps, qui est le temple du Saint-Esprit. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il l'a dit « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Je rappelle que ce n'était pas une éclipse de soleil, qui dure jamais trois heures. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Eli, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Eli viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Je ne lirai pas le récit de la résurrection, nous avons lu tout à l'heure, Jean-François a lu ce récit de la résurrection merveilleux dans Jean. Dans Luc, juste un verset qui me touche. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il est ressuscité comme il vous l'avait dit. » Jésus avait dit. Jésus est prophète aussi. Il avait dit « Je ressusciterai », mais il n'avait pas compris. Je voudrais enfin lire dans Apocalypse 1er, chapitre 1er, au verset 12, Jean a cette apparition et ce dialogue avec le Christ. Je me retournai au verset 12 pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. » Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Ne crains point. Quelle scène extraordinaire. Jean, devant cette vision, devant cette voix qui lui parle, tombe comme mort. Et le vivant pose sa main sur lui. Frères et sœurs, là, nous n'avons pas soif de cela. Le Christ ressuscité pose sa main, ne crains point. J'étais mort, mais je suis le vivant. Et je suis maintenant vivant au siècle des siècles. Et plus que ça, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est un événement central, c'est un événement éternel. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre moyen de salut que la mort et la résurrection de Christ à la croix. Je tiens à dire ce matin que ce salut, il n'est pas réservé à ceux qui croiraient en son nom. Après qu'à la suite des apôtres, le message de l'Évangile a été diffusé. C'est aussi le moyen de salut pour ceux qui nous ont précédés dans la foi, avant la venue de Jésus-Christ sur terre. Il est aussi le moyen de salut pour ceux qui n'ont pas connu la loi, avant Moïse. Il n'y a pas 50 moyens de salut. Cet événement, il est central, historiquement, et il a une portée éternelle. Une portée éternelle, ce n'est pas simplement une portée de quelque chose qui dure longtemps, c'est quelque chose qui est hors du temps, c'est quelque chose qui est d'une autre dimension, mais qui impacte la terre pour l'éternité, la terre actuelle, la terre future. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Il y a un paradoxe dans les textes que nous avons vus entre la condition, on pourrait dire méprisable et méprisée, de Jésus et le Christ glorieux. Et cela, l'homme, la Bible nous dit, c'est scandale pour les Juifs qui attendaient un Messie glorieux, folie pour les Grecs qui philosophaient, qui avez une vision humaine qui nous correspond tant, qui correspond tant à notre monde. Le refus de la souffrance, le refus de voir les causes de cette souffrance de Christ, qui est précisément la chute de l'homme, l'indépendance, l'orgueil et tout ce qui s'y rattache. À la croix, nous avons plusieurs choses. Ce matin, je prendrai que quelques thèmes. Premièrement, le pardon des péchés. Dieu a passé outre. Dieu a passé outre, ça ne veut pas dire qu'il a été une espèce de tolérance, une espèce de laxisme par rapport au péché. Il a passé outre en pleine conscience. Il a passé outre nos péchés. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, mais il n'a pas laissé le péché impuni. Un jugement est tombé à cause de ce péché. Un prix a été payé. Et quel prix? Puisque c'est sur son Fils, sur Jésus-Christ, que le jugement est tombé. Nous avons le pardon des péchés à ce prix-là. À ce prix-là uniquement, c'est gratuit pour nous, mais un prix a été payé. Un prix, le coup, le choc, c'est le Père qui l'a encaissé, en voyant le Fils. Le Père qui a dû abandonner le Fils, car le Fils a été abandonné à la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Celui qui avait une communion avec son Père, depuis le début de son ministère, depuis l'âge de 12 ans, qui explique à ses parents adoptifs, « N'avez-vous pas compris que je dois faire les affaires de mon Père ?» De mon Père céleste, lui qui était rempli du Saint-Esprit, lui qui avait une communion avec son Père, qui faisait un avec son Père, lui dans le Père en lui, tout ce qui est à toi est à moi, a été abandonné. Les ténèbres sont venues, 3 heures, symbolique, les ténèbres sont venues, les puissances des ténèbres sont venues à Gethsémané. La victoire a été remportée là, victoire d'une volonté d'un homme sans défaut et sans tâche, qui a obéi, mais pas d'une obéissance de servitude, qui, par amour pour le Père, par cette communion de l'Esprit qu'il y avait en eux, qui est eux-mêmes d'ailleurs, a librement décidé d'aller jusqu'au bout. Que cette coupe puisse passer, mais que ta volonté soit faite, puis que ta volonté soit faite et non la mienne. Un renoncement, il n'a pas échappé. Il n'y a pas de magie. Il n'y a aucune magie dans ce qui se passe là. Mais une conscience pure, sainte, un homme qui n'a pas connu le péché, qui a une parfaite communion avec son Père et qui dit « Oui, j'accepte la mission. » La mission. Jésus-Christ est crucifié avant la fondation du monde. Dans le conseil, il a plu à Dieu. C'est pas, il a plu comme un caprice. Il a plu. C'est le bon plaisir, la bonne volonté, la volonté bonne de Dieu pour sa création, perdue, séparée depuis l'Éden. Dieu sait qu'il choisit ce moyen pour sauver. Et le Fils dit, oui, j'accepte. Voilà ce qu'est une soumission lucide, éclairée, aimante, une foi, une confiance agissante par l'amour. Le Fils se livre. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Nous avons le pardon des péchés. Nous avons plus que cela. Dans ce thème du pardon, nous avons la purification aussi. Parce que le péché, il est un obstacle à notre communion avec Dieu. Mais le péché fait plus que ça, il nous détruit. Il abîme, il introduit de faux raisonnements, il introduit des comportements tordus qui nous détruisent, qui détruisent notre environnement, qui détruisent notre entourage. À la croix, non seulement le péché est effacé, il est ôté, mais jusqu'à la racine. Jusqu'à la racine, il y a cela, ça a été dit dans une prière, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été crucifié à la croix. La lumière qui peut alors passer va consommer, griller jusqu'aux racines. Frères et sœurs, nous ne devons pas attendre moins de cela, de l'œuvre de salut de Jésus-Christ. Pas simplement le pardon, pas simplement « je n'ai plus de péché, je peux m'approcher de Dieu ». Seigneur, que mes comportements, mes choses tellement ancrées puissent être arrachées. Il y a ça à la croix. Restauration. Restauration de l'être tout entier, L'esprit, c'est plus qu'une restauration. Il était mort. Il est vivifié par la venue de l'Esprit-Saint. L'âme est renouvelée. Et notre corps aussi. Et je le crois aussi, déjà sur cette terre. Déjà des maladies s'enfuient. Déjà les tensions, les oppressions liées à la culpabilité disparaissent lorsque le salut est accepté. Mais nous savons que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et pour ce qui est du corps, c'est au retour de Jésus-Christ qu'il sera transformé, qu'il connaîtra l'incorruptibilité. Lui-même, au sortir du tombeau, dit à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire à mes frères que je m'en vais vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Frères et sœurs, que ces choses soient bien posées dans nos cœurs, dans nos cœurs, dans nos cœurs. On peut le comprendre par l'intellect, mais que ces choses soient posées, que ce soit une ferme assurance, frères et sœurs, pour vivre ce que nous avons à vivre aujourd'hui, que nous ayons cette joie ineffable et glorieuse. Elle est dans la connaissance de la vérité. Je prie, Seigneur, que tu nous renouvelles, que tu nous enrichisses dans la connaissance de ta personne, de ton œuvre, pour que ces choses soient bien posées. Soient bien posées. Nous avons la vie éternelle dès ici-bas. Nous avons la vie éternelle dès ici-bas. Et ce torrent de vie coule et il lave nos âmes. Et acceptons que cette œuvre se fasse. C'est tout est accompli, mais il nous faut encore l'accepter. Que ça se fasse, que cette lumière revienne, que cette eau est lave. Et pour qu'elle soit lavée, il faut bien que la souillure soit montrée. Acceptons que cette souillure soit montrée. Puisqu'il a fait ce qu'il fallait pour qu'elle soit lavée, son sang a coulé, il est tout suffisant. Pardon des péchés, purification, restauration, voile déchirée. On peut s'approcher de Dieu. Librement, librement, on peut s'approcher de Dieu. Nous sommes adoptés, ça a été dit dans les prières. L'adoption. Abba, Père. Abba, Papa. Le grand Dieu puissant, le Dieu que j'ai craint, le Dieu dont j'ai eu peur, parce que la culpabilité m'a donné la peur. Parce que le diable voulait me maintenir jusqu'au bout de la fin de mes jours dans la peur de la mort. Il a vaincu celui qui voulait retenir l'humanité dans la peur de la mort. Il l'a retenu. Alors je peux m'approcher. Je change de mentalité. Je m'approche. Avec des exigences, je vous en conjure, frères et sœurs, n'approchez pas de Dieu avec des exigences. Nous souvenons, je suis biblique en disant ça, nous souvenons de la purification des péchés. Alors si je m'approche de Dieu en me souvenant, j'ai été purifié de mes péchés, je pourrais ajouter à la foi la vertu, le courage, la tempérance. La tempérance, l'amour des frères, l'amour de Dieu. Et ça je le pourrais par l'amour de Dieu, là il y a un mystère. Je pourrais comprendre l'amour de Dieu en le recevant. Mystère. Où est l'œuf, où est la poule, je n'en sais rien. Si, je sais, c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a aimés le premier, parce que nous étions ennemis de lui. Peut-être certains se disent, mais moi je ne suis pas ennemi de Dieu, j'ai rien contre. Si tu as rien contre, c'est que tu as quelque chose contre. C'est que tu es un indifférent. C'est que tu n'en veux pas finalement. Il t'aime. Si tu dis que tu n'as rien contre, c'est parce que tu dis, mais je peux quand même faire sans lui. Comment ça tu peux faire sans lui? Comment ça tu peux faire sans lui? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Abandonne aujourd'hui. Tu ne peux pas faire sans lui. Tu es pécheur. Tu es pécheur. Tu es déjà pécheur parce que tu te crois un peu mieux que les autres. C'est foutu pour toi. Mais c'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il est mort. Le voile est déchiré. Vous savez ce qu'a été ce voile? Je ne vais pas vous refaire l'Ancien Testament. Il y avait le parvis. Et nous ne voulons pas, oui, rester dans le parvis. Mais des fois, il faut passer par le parvis. Parce que dans le parvis, la première chose qu'il y a dans le parvis, c'est l'autel où il y a un sacrifice. C'est-à-dire que je m'approche de Dieu, mon péché apparaît. Mais il y a l'autel qui est là. Et je continue le chemin. Il y a les cuves. Pour être purifié, pour être lavé. Alors, pardonner des péchés, laver, purifier. Ma prière peut s'élever l'autel des parfums. Je peux commencer à ouvrir ma, élever ma voix. Mais il y a encore le voile. Pour le Saint de Saint, pour cette communion. Or, c'est ce que j'ai à rechercher. Bonne nouvelle. Le voile est déchiré. Il s'est déchiré à l'instant même où Jésus mourait. Il s'est déchiré. Le voile, nous avons accès au lieu très saint. Plus besoin de sacrificateur. Plus besoin de souverain sacrificateur qui, une fois par an, entrait dans le lieu très saint. Une fois par an, frères et sœurs. Est-ce que vous avez, une fois par an vous suffit pour être dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'on va faire une fois par an? Certains disent, une fois par an, j'ai fait mes Pâques. Mais qu'est-ce qu'on va faire une fois par an, frères et sœurs? C'était le lot des sacrificateurs, du souverain sacrificateur, une fois par an, il est entré. Et non sans avoir offert, pour lui-même, qui était un homme pécheur, des sacrifices. On lui mettait une petite chaîne, parce que si jamais il n'avait pas bien fait le truc, il pouvait mourir. Parce que dans la présence de Dieu, si un péché n'est pas pardonné, mais on meurt. Tous ceux qui ont expérimenté l'ont su. Ésaïe, Pierre, Ésaïe, mais j'ai vu Dieu, mais je suis un homme pécheur, qu'est-ce que je vais devenir? Pierre, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Le voile est déchiré maintenant, frères et sœurs. Le voile est déchiré parce que Jésus est mort à la croix, il a pris sur lui nos péchés et nos iniquités. Le voile est déchiré, le voile est déchiré, quelle que soit ta vie. Quelles que soient tes turpitudes, quelles que soient tes pensées qui t'oppressent, quelles que soient les accusations, le voile est déchiré. Si tu acceptes cela, que c'est lui qui est mort et qui est ressuscité. Parce que frères et sœurs, nous ne sommes pas sauvés pour être sauvés, mais pour devenir ce que Dieu a voulu que nous soyons et que nous vivions, une alliance. Une alliance, c'est un Dieu d'alliance. Il veut que nous vivions et que nous entrions dans cette alliance. Nous ne sommes pas sauvés et pardonnés de nos péchés juste pour nous épousseter, pour dire maintenant j'ai plus de péché, je suis bien. Nous sommes sortis des ténèbres pour être transportés dans le royaume du Fils de son amour, pour avoir cette vie nouvelle. Le fils prodigue aurait pu être sauvé de sa perdition en revenant chez son père comme salarié. C'était d'ailleurs sa pensée. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Traite-moi comme l'un de tes salariés. Mais ça, c'est la pensée de l'homme. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Que fait le père quand le fils prodigue revient? Il se réjouit d'abord, parce qu'il avait tant attendu ce moment. Le Père t'attend ce matin. Il est sur le seuil. Mais il ne courra pas vers toi. Il t'attire. Il t'attire. Il t'attire ce matin. Quand j'aurai été élevé à la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Et nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Et nul ne vient au Père sans passer par moi, dit Jésus. Et si vous passez par Jésus, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin, de nouveau nous rencontrerons la croix. Elle continuera son œuvre dans nos vies. Cette œuvre initiale, elle la continuera pour aller de progrès en progrès, pour que la lumière gagne dans notre être tout entier, pour que les zones de ténèbres soient visitées, que celles qui nous retiennent encore de servir dans le royaume soient visitées. Acceptons-nous cela. Celui qui vous a sauvé, celui qui m'a sauvé. Voilà ce qu'il nous propose, de continuer ce travail. Il ne veut pas que nous servions comme un salarié chez lui, mais comme des fils et des filles dans la maison. Le Seigneur nous a revêtus d'un nouveau vêtement. Il a renouvelé un renouvellement de l'alliance entre le Père et le Fils. Une restauration dans notre position d'héritier. N'oublions pas qu'il est le bon berger des brebis et non le mercenaire qui tond les brebis. Il est le bon berger. Oui, il a l'alouette et le bâton pour pas qu'on se perde. Nos conceptions sont tellement déformées. L'amour du Père manifesté en Jésus-Christ. Troisièmement, c'est une vie, c'est une nouvelle vie, c'est une vie de résurrection. Non pas la vie d'avant améliorée, mais une vie de ressuscité. Frères et sœurs, est-ce que vous sentez une vie de ressuscité ? Nous étions morts. C'est quelque chose qui me bouleverse toujours. Quand je pense que la veille de ma résurrection, j'étais vraiment mort. J'étais vraiment mort. Mort dans mes péchés, mort dans mes turpitudes. Oh, l'ennemi se plaît à rappeler. Robert, ce que tu as été. Échec sur échec. Gloire des hommes sur gloire des hommes. Orgueil, vanité. Souillure. Et vous croyez qu'il n'est pas assez puissant pour régler ça ? Souvenons-nous. Zachée, cupidité. La femme samaritaine, débauche, adultère. La femme adultère. Adultère. Marie-Madeleine. Prostituée. Et la parole est terrible. Ni les adultères, ni les cupides, ni les débauchés n'entreront dans le royaume de Dieu. Aïe, 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 aïe. Et c'est là ce que vous étiez un certain nombre. Mais vous avez été purifiés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été glorifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est là ce que vous étiez. Vous étiez mort. Le sang, vous êtes vivant. Alléluia. Alléluia. Non pas la vie d'avant améliorée, ou nettoyée, ou époustée. Une vie de ressuscité. La mort à la croix et la résurrection de Christ posent la nature de cette vie nouvelle. C'est une vie de source jaillissante. Ce n'est pas simplement une graine qui est déposée dans nos cœurs. C'est une source jaillissante jusque dans la vie éternelle. Ce n'est pas simplement une présence à côté de nous, au milieu de nous. C'est Christ en nous. Et ça, ça n'avait jamais existé. Et ça, ça n'avait jamais existé, même en Éden. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Le premier Adam, c'est une âme vivante, dans laquelle le souffle de Dieu a donné vie. Une psychésante. Une âme psyché. Vivant. C'est les termes de la Bible. La vie de résurrection, c'est un esprit vivifiant. C'est un esprit qui ressuscite ce qui est mort. Plus que ça, c'est un esprit qui vivifie, qui transporte de la vie, qui projette de la vie. Ce n'est pas la même vie. C'est une vie de ressuscité. Cette vie de ressuscité, elle nous donne, elle éclaire. Elle nous rend en même temps une entière responsabilité. Cette fois-ci, notre conscience qui était voilée a été éclairée. Alors si notre conscience a été éclairée, notre responsabilité arrive. Et là, nous avons quelque chose de solennel. Je vous ai décrit les merveilles les merveilles de ce qu'est le salut, de ce qu'est... Il y a un mystère. Des choses qui nous dépassent. Mais nous savons que c'est la réalité. Alors notre conscience maintenant est éclairée. Nous considérez-vous, va nous dire l'apôtre Paul, comme mort au péché? Est-ce que, quand on a reçu cette vie, on a encore envie du péché? J'ai pas dit qu'il n'y avait pas encore une puissance qui agissait. Mais nous savons qu'elle agit. C'est pour ça qu'il y a le combat dans la vie du chrétien. Il y a des combats qui n'existaient pas avant. Parce que nous savons, parce que nous avons la connaissance, et la connaissance, oui, la connaissance est un pouvoir, et les lieux célestes le savent. Deuxième ciel et troisième ciel le savent. Puisque nous connaissons la vérité sur la situation de l'homme, sur le salut, sur l'œuvre de Christ, l'ennemi aussi est au courant. Et là, nous avons un enjeu. L'enjeu, c'est de tenir notre position de créature nouvelle, de tenir notre position d'ambassadeur de Christ. Et notre conscience est éclairée. Donc ne nous mentons plus à nous-mêmes. Nous devons maintenant veiller sur cette confiance. Maintenant que nous avons été éclairés, nous sommes en mesure, et c'est la responsabilité que Dieu nous donne, de garder cet instrument de pilotage en bon état. Attention de ne pas laisser le voile déchiré se refermer. Attention aux influences de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, de qui nous fréquentons. Je ne dis pas par là de ne pas fréquenter les pécheurs, ce n'est pas ça que je dis. Je dis, ne soyons pas présomptueux, simplement. Attention à la paresse spirituelle. À ce sujet, j'aurais reprendre, je partageais ça, l'enseignement dans Deutéronome 8. C'est intéressant, Deutéronome 8, parce que Deutéronome, c'est la deuxième génération, celle qui va entrer dans le pays de la promesse, celle qui va hériter de l'héritage. Donc cette mise en garde est intéressante parce que c'est notre situation finalement. Et il y a trois exhortations après que Moïse rappelle la raison de la marche au désert, c'est qu'on sache ce qu'il y avait dans notre cœur. Il nous fait plusieurs mises en garde. Au verset 14, pardon, d'abord, il nous dit quand tu seras rentré dans ce bon pays. Parce que, frères et sœurs, je sais que parmi nous, beaucoup ont déjà vu s'accomplir les promesses de Dieu pour nos vies. Frères et sœurs, il y a des promesses de restauration. Celui qui était pauvre dans la misère n'est pas destiné à le rester, et je ne prêche pas la prospérité, vous êtes bien au courant là-dessus. Mais par la vie de l'esprit qui anime les cœurs des chrétiens, nous avons à vivre ce que vivaient les premiers chrétiens. Et nous n'avons pas à vivre que les désordres des Corinthiens. Nous avons aussi à vivre que ceux qui avaient beaucoup n'avaient pas trop, et ceux qui avaient peu avaient assez, parce que le surplus des uns pourvoyait aux besoins des autres. On est bien d'accord, on a tout ça à vivre. D'accord. Alors, lorsqu'on sera rentré dans ce bon pays, il nous est dit, verset 11, « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Nous avons bien plus que cela maintenant. Alors, garde-nous. Pensons ce matin. Garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier d'où tu viens. Garde-toi d'oublier à quel prix tu as été racheté. Verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. Deuxième piste qui peut nous amener à oublier. Que ton cœur ne s'enfle. Confirmé en verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur: ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, etc. etc. Garde-toi des richesses. On peut parler aussi des richesses spirituelles. Garde-toi de dire: je suis vraiment quelqu'un d'intelligent, j'ai compris ça. Tu parles. Si l'Esprit Saint te les avait révélées, qu'aurais-tu? Rien. La parole serait fermée. Pour toi, tu pourrais la lire. Vous savez, il y a des théologiens qui lisent la Bible, qui la connaissent, qui peuvent faire l'exégèse, et qui n'ont pas la vie. Pas un reproche. C'est simplement que la vie, cette vie-là, c'est lui qui la donne. Résurrection, nouvelle vie, vie surnaturelle, céleste, déjà sur cette terre. J'aurais insisté sur ce point, frères et sœurs. Jésus-Christ est assis dans les lieux célestes. La lettre aux Éphésiens est extraordinaire. Les actes nous rappellent, dans le discours de Pierre, qu'il n'était pas possible que les liens de la mort le gardent prisonnier. La lettre aux Éphésiens, la puissance de Dieu a été manifestée par la résurrection de Jésus-Christ, il l'a fait asseoir dans les lieux célestes. Éphésiens 2. Non seulement Jésus-Christ, qui va être le premier en tous, le premier ressuscité, le premier vivant, le premier monté au ciel, mais nous tous aussi. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Frères et sœurs, ce n'est pas une espèce de privilège réservé à Paul, même s'il était enlevé un esprit, etc. C'est notre position spirituelle normale. C'est notre position spirituelle normale. Je reconnais, je ne sais pas où vous en êtes, moi je reconnais que j'ai parfois du mal à la tenir, que parfois je patauge. Mais je dis, Seigneur, ce n'est pas là que tu me veux. Ce n'est pas là que tu me veux. Il y a un chant qui dit « Quand je m'égarais, mon cœur était plein d'amertume et je n'y voyais plus rien. » Frères et sœurs, oui, je reconnais la part de ténèbres qui peut rester dans ma vie. Le Seigneur s'en occupe. Mais ma position d'enfant de Dieu, de racheté, de dépositaire, comment dire, de celui qui a reçu une surjaillissante, ma position, elle est dans les lieux célestes, assis avec Christ. Ce n'est pas un mantra, je vous dis. Comprenons ces choses. Seigneur, viens nous aider ce matin. Éclairer à demeurer assis avec toi dans les lieux célestes. Non pas une position mystique, non pas une recherche particulière, mais ma position normale, avant même de marcher, être assis avec lui dans les lieux célestes. J'ai une image, peut-être ça vous permettra de mieux retenir. En voilà une qui était assise dans les lieux célestes. Marie, assis aux pieds de Jésus. Elle était assise dans les lieux célestes, je crois. Assise aux pieds de Jésus, mais dans les lieux célestes. Elle a choisi la bonne part, elle ne sera pas retirée. J'ai eu ces derniers temps beaucoup de combats avec ça, cette histoire de Marthe et Marie. Je la voyais bien, cette histoire de Marthe et Marie, convenir souvent à des sœurs. C'était une affaire de femmes. Les femmes qui ont cette capacité de faire tant et tant de choses. Je pense, te dirais une maison, c'est toujours quelque chose qui m'impressionne, le multipartition chez les femmes. Enfin bon, je suis peut-être. En ça, je sais que je suis un homme, parce que vraiment, des fois, c'est un peu la logique, tout ça. Bon, les femmes, elles savent gérer tout un tas de choses. Et ce passage, des fois, j'en vois qui s'agitent dans tous les sens. Ah, je me dis, ça, c'est une Marthe. Mais Seigneur, on va parler. Il n'y a pas que les femmes qui peuvent être Marthe. Hein. Bon, ça, vous le saviez, les femmes. Il n'y a pas que les femmes qui sont Marthe. On peut s'occuper de beaucoup de choses. Et ne plus prendre le temps d'être assis au pied du Seigneur. Or, être assis dans les lieux célestes, c'est assis au pied du Seigneur. Recherchons cette bonne part. Demandons l'aide du Seigneur pour retrouver cette bonne part. Je voudrais sur le plan pratique, comment vivre cela? Comment vivre, j'allais dire, cette position élevée, comprenez-moi bien, dans les lieux célestes? Simplement, en ne refusant pas l'invitation de Jésus. C'est une invitation ferme, venez à moi. Venez à moi. Ce venez à moi, il est, je crois, normalement la conséquence. Lorsque nous méditons sa parole, cette manne quotidienne, ça nous attire à lui. Mais il nous dit, venez à moi. Vous tous qui êtes maintenant bien saints, bien parfaits, non, non, vous tous qui êtes chargés. venez à moi. Mais venez ! C'est presque un ordre. Pourquoi on ne vient pas ? Eh bien, je boucle et je terminerai là. Parce que quand on va s'approcher de lui, il va montrer, on va entendre les paroles de Jacques. Lavez vos mains, purifiez-vous. Ce n'est pas des reproches, c'est on a besoin jusqu'au bout. Il est ressuscité, il est vivant, il y a une puissance. Il y a une puissance dans la résurrection. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui l'a ressuscité vous ressuscitera au dernier jour. Celui qui croit en moi, dit Jésus, je le ressusciterai au dernier jour. Que cette espérance-là, soutienne notre marche dans les plus profondes difficultés. Celui qui croit en moi, celui qui vient à moi, je, Christ, qui en a reçu le mandat du Père, le ressuscitera au dernier jour. Amen. Seigneur notre Dieu, merci de cette révélation, Seigneur, que tu as donnée à nos cœurs et que tu veux encore donner. Parce que, Seigneur, tu n'en as pas fini, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce, Seigneur. Nous croyons, oui, Seigneur, que le voile est déchiré, que tu veux encore déchirer les cieux, Seigneur, pour inonder, pour avant ton retour, Seigneur, encore arracher des tisons promis à la destruction, Seigneur, par l'ennemi de nos âmes. Mais nous proclamons que ta victoire, elle est complète. Ô mort, où est ton aiguillon ? Où est ta victoire ? Le péché, la puissance du péché est engloutie. Je proclame ce matin par la puissance de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui encore, tu changes des vies. Aujourd'hui, ce matin, Seigneur, tu changes des vies. Et à ceux qui ont déjà reçu, Seigneur, cette vie éternelle, tu viens visiter, tu viens éclairer les zones qui ne l'ont pas encore été. Seigneur, que toute résistance ce matin soit anéantie et que les coins les plus sombres, les plus ténébreux, les plus honteux des vies puissent être livrés pour que tu les éclaires et que tu ôtes ce qui empêche mon frère, ma sœur et moi-même, Seigneur, d'aller plus loin. Sois béni, sois glorifié, sois adoré, Père, par le beau et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.